servir de base à notre méditation, j'aimerais lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Alors, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder également. Luc, chapitre 9, c'est un passage court, très court, deux versets, qui ont absolument attention. Luc, chapitre 9, et je commence au verset 49. Jean dit alors, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne suit pas avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Voilà, une lecture courte, deux versets. Et dans ce passage, on voit une ouverture de Jésus qui peut être nous met mal à l'aise. Peut-être qu'on trouve cette ouverture trop grande. Quelqu'un qui n'est pas contre vous est positivement pour vous. On a là quelqu'un qui agit au nom de Jésus, dont il ne connaît rien. On ne connaît pas sa théologie, on ne connaît pas sa confession de foi, on ne connaît pas ses habitudes. Et Jésus semble dire, c'est bon. C'est surprenant. Dérangeant pour, peut-être pour les protestants qui veulent rester fidèles à la réforme, à cette exigence de vérité et de faire bien les choses. Voilà la première impression en tout cas que j'avais quand je lisais ce texte. Mais je vous invite à regarder le texte biblique pour mieux comprendre. Quel est le problème? On a un gars inconnu, un exorciste, qui chasse les démons. Et il le fait au nom de Jésus. Et en chassant les démons, il libère des personnes qui sont opprimées par ces forces démoniaques. Concrètement, il fait du bien à ses contemporains. Le problème, pour les disciples, et pour Jean qui vient en parler à Jésus, le problème ce n'est pas que le gars chasse les démons, ce n'est même pas qu'il le fasse au nom de Jésus. Le problème, c'est qu'il fasse tout ça sans suivre Jésus. Avec eux. Avec eux. Je pense que Jean parle ici des 12, le cercle le plus proche, ceux que Jésus a choisis pour être apôtres. Ceux qu'il forme pour être les piliers de l'Église, ceux à travers lesquels le Nouveau Testament va être donné aux chrétiens et dont nous bénéficions aujourd'hui. Il n'est pas avec eux. Il ne suit pas Jésus de la même façon. Il ne le suit pas avec le même dévouement. Il ne se pose pas les mêmes contraintes. Et pourtant, il s'autorise à faire comme eux. Et à Jésus, ça semble lui convenir. D'où vient-il? D'où vient-il ce gars? Et donc, on est d'accord, il ne fait pas partie du cercle des 12 disciples, mais on sait qu'autour de Jésus, il y avait plusieurs cercles. Il y avait les 12, ceux qui étaient toujours là, qui avaient ce rôle spécial auquel Jésus les destinait. Et puis on voit aussi apparaître dans l'Évangile un groupe de 70. 70 que Jésus envoie avec un rôle spécial pour aller guérir, pour aller chasser les démons, délivrer. Peut-être ce gars en faisait partie, c'est juste après qu'il m'a envoyé 70. Peut-être qu'il n'en faisait même pas partie. Parce qu'on sait qu'il y a encore un autre cercle, beaucoup plus grand, beaucoup plus large, une grande foule qui suivait Jésus. Et la foule, par définition, ça va, ça vient. On ne sait pas exactement qui est dedans. Mais ce gars, si on ne le connaît pas, lui, il connaît suffisamment Jésus pour pouvoir agir en son nom. Il sait ce qu'il faut faire. Il n'utilise pas le nom de Jésus comme il semble magique. Ça, Il semble que ce n'est pas possible quand on lit le Nouveau Testament, en particulier plus tard, dans les Actes des Apôtres, pendant les voyages missionnaires de Paul, on rencontre sept petits malins, les fils de Séba, qui veulent briller et qui veulent chasser des démons au nom de Jésus. Le problème, c'est que quand ils essayent, quand ils vont voir un gars qui est possédé et qui lui dit « au nom de Jésus, quitte ce corps », le démon leur répond. Et le démon leur répond « je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas ». Et il se rue sur eux et il les éliminent. Donc, je pense que notre homme, dans cette histoire, connaît Jésus et il est en phase avec lui. Il est en phase avec son action suffisamment pour pouvoir délivrer les personnes possédées. Agir au nom de Jésus. Je viens de dire, ce n'est pas utiliser son nom de façon magique, comme une incantation. Agir au nom de Jésus, c'est se placer sous son autorité. Dire, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Jésus qui agit là. C'est lui laisser toute la place. Et quand on fait ça, Jésus est glorifié par notre action. Et Jésus est glorifié par l'action de notre gars. Et c'est pour cela que Jésus ne veut pas qu'il soit empêché. On s'est posé la question de savoir qui était ce gars, d'essayer de comprendre pourquoi les disciples veulent l'empêcher, parce que il ne se pose pas les mêmes contraintes qu'il ne fait pas les choses de la même façon que. Mais Jésus dans tout ça, que dit-il? Déjà, Jésus ne dit pas, peu importe le chemin que vous suivez, tout se vaut. Il ne dit pas qu'il n'y a pas besoin de s'attacher à une église, que tout est égal. Je pense que si on veut déduire ça de ce texte, on fait fausse route. On fait fausse route parce que ce n'est pas rendre témoignage au reste du Nouveau Testament, au reste de l'Évangile, le sermon sur la montagne en particulier, où Jésus montre une exigence tellement grande. Et il nous demande de viser cette exigence tellement grande. Et au milieu du sermon sur la montagne, cette parole de Jésus, qui dit, votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Je ne pense pas qu'on puisse dire que tous les chemins sont mal. Et de même, dans la suite du Nouveau Testament, avec les Épîtres et Paul en particulier, qui n'ont de cesse de comprendre les implications concrètes de l'Évangile dans l'Église et les implications de l'unité qu'il faut rechercher, travailler malgré les difficultés. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas besoin de s'attacher et que c'est à la carte. Il y a une bonne façon de le faire et Jésus la montre. Les 3 ans de ministère qu'il a passé sur terre, ce n'était pas juste en attendant le sacrifice de la croix, c'était aussi pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer ce que c'est qu'agir selon la volonté de Dieu. Il y a une bonne façon de faire, mais s'il dit là, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Parce que le chrétien a des adversaires. Ici, Jésus dit, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Plus loin, dans le même évangile, au chapitre 11, il dira, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas, disperse. Jésus dresse un tableau où on est soit pour, soit contre. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de terrain neutre. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse dans cette déclaration de Jésus, c'est que il utilise le pronom personnel « vous ». Dans le récit parallèle dans l'Évangile de Marc, il dit « Celui qui n'est pas contre nous est avec nous ». Plus loin, au chapitre 11, dans ce que je vous ai lu, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Mais là, il parle « vous ». Il s'adresse aux disciples. Comme s'il sortait du problème. trouve que c'est intéressant que, dans son propos, il vise les disciples. Il leur dit, c'est vous qui êtes sur le terrain. Pas moi. C'est vous que j'ai envoyé. Et quand vous êtes sur le terrain, arrêtez de vous chercher des ennemis. Parce que des ennemis, vous en aurez bien assez comme ça. Vous faites reculer les ténèbres. Et cela ne plaît pas. Des ennemis, vous en aurez. Ne me cherchez pas en plus. Il les a prévenus. Il les a prévenus qu'ils seraient persécutés. Et ils l'ont été. Et ils l'ont été jusqu'à la mort. L'opposition est réelle. Mais Jésus dit, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Et nous aussi, nous devrions viser cela. Nous devrions garder cette parole de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et viser cette parole, la garder en tête, la garder comme un cap à suivre. Je crois que c'est un réel bénéfice pour nous. Ça peut nous apporter la paix. Ne pas être les uns contre les autres. Savoir que déjà, les coups ne viendront pas des chrétiens. C'est toujours bon à prendre. C'est toujours ça de prix. Parce que nous aussi, nous avons des ennemis. L'apôtre Paul a prévenu, il n'y a pas que les disciples qui sont persécutés. Il a écrit à Timothée, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est une réalité. Très concrète et dramatique, allant jusqu'à la mort dans certains pays, c'est une réalité dans notre pays également. Ce n'est pas facile d'être un chrétien authentique. Par exemple, sur ce point, vous connaissez les difficultés d'être chrétien. De vouloir exercer sa foi de façon fidèle, en particulier en témoignant autour de nous, en disant ce qu'on croit. Comment vivre ? Comment vivre cette parole de Jésus pour nous aujourd'hui, en 2017 ? Et j'aimerais vous proposer quelques suggestions, quelques directions qu'on peut prendre en compte pour suivre cette parole de Jésus et ne pas être les uns contre les autres. Je pense que déjà, un bon début, une première direction, c'est de ne pas dire du mal des autres chrétiens, des autres églises, de ceux qui sont ailleurs. Parce que pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est incompréhensible. À ses yeux, nous sommes tous chrétiens. Peut-être sait-il qu'il y a des catholiques et des protestants. Peut-être les plus informés ont entendu parler des évangéliques. Mais si nous nous mettons à critiquer la chapelle voisine, on passe vraiment pour les clowns. C'est un contre-témoignage total. Alors que Jésus a dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez pour les autres. Vous imaginez le contre-témoignage si, devant ceux qui ne sont pas chrétiens, nous sommes là à nous critiquer. Au contraire. Au contraire, réjouissons-nous des nouvelles, des bonnes nouvelles qui nous viennent des autres églises. Telle église a un projet pour toucher la ville, prions avec elle. Telle église grandit, alléluia, rendons gloire à Dieu pour ça. Quelle surprise pour ceux qui nous entourent de nous réjouir du succès de ceux qu'ils imaginent être nos concurrents. Il est là le bon témoignage. Parce que ce que nous savons, c'est l'intérêt de notre Seigneur, pas l'intérêt de notre Église. À lui seul la gloire, toute la gloire. Une deuxième suggestion de comment vivre ce commandement de Jésus, regardez et encouragez. Quand on croise quelqu'un, sur le terrain, comment fait le disciple qui fait du bien au nom de Jésus, qui chasse des démons ou quelque chose d'autre, qui amène les gens à regarder vers celui qui délivre, vers Jésus-Christ. Dans un premier temps, regardons-le, au observant. Même les disciples ont su le faire. Ils ont vu que le gars chassait les démons au nom de Jésus. Jésus nous dit, c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Avant de cataloguer, regardons les fruits de ceux qui se réclament Jésus-Christ. Regardons les fruits et plutôt que de se précipiter sur celui qui agit, observons-le. S'il rend gloire à Dieu, il n'est pas contre vous. Et du coup, plutôt que de chercher à l'empêcher, pourquoi ne pas l'encourager? Ne serait-ce pas naturel s'il est avec nous? Et si vraiment il y a un point sur lequel il est dans l'erreur, eh bien, il sera heureux de venir nous voir et nous demander conseil à celui qui l'a encouragé et qui ne l'a pas jugé. Regardez et encouragez ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Et puis, troisième suggestion à ceux qui veulent vivre ça, qui ne veulent plus être les uns contre les autres, mais ensemble, c'est agir ensemble, justement. Si nous sommes dans le même camp, pourquoi ne pas unir nos forces? Alors, c'est facile de le dire aujourd'hui. Nous sommes là, plusieurs communautés réunies qui s'apprêtent à agir pour notre ville, pour témoigner. Je ne prends pas trop de risques en disant ça ici. Mais qu'en sera-t-il demain? Et qu'en est-il pour les autres, ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui? Comment les considérons-nous? Qu'est-ce qu'on veut faire avec eux? Il y a encore à construire, il y a encore des choses à faire ensemble. Et pour nous décontracter, j'aimerais dire que ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas soit on est ensemble et on peut tout faire, il n'y a plus besoin d'avoir des églises différentes, ou rien, on a besoin d'être différent et on ne peut rien faire ensemble, on ne peut même pas se parler. Ce n'est pas tout ou rien. Et on peut se poser la question, que pouvons-nous faire ensemble? Est-ce qu'on peut se positionner ensemble sur un sujet de société? Avoir une parole commune? Pourquoi pas manifester ensemble? Est-ce qu'on peut être ensemble pour aller rencontrer les autorités, pour peser plus lourd? Est-ce qu'on peut célébrer des cultes ensemble, de temps en temps, régulièrement, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut évangéliser ensemble? Sainte Église, les deux œuvres répondent positivement cette semaine. Et c'est super encouragement, un super témoignage. Est-ce qu'on peut mettre nos locaux à disposition? Nos frères catholiques ont répondu oui à cette question pour nous ce matin, nous en bénéficions. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prier ensemble, est-ce que ce ne serait pas un bon point de départ? Se rassembler ensemble pour se mettre devant notre Dieu. Pas notre Dieu, celui qui nous appartiendrait, mais notre Dieu parce que nous le servons et qu'ensemble, nous voulons l'écouter. Il y a toutes ces possibilités de faire des choses ensemble. Et pour chacune, on peut se poser la question, est-ce que j'ai la liberté de le faire avec ce frère ou est-ce que je n'ai pas la liberté parce que je pratique le même mal à l'aise, mais j'aurai la liberté de faire autre chose avec lui. Ce n'est pas tout ou rien. Et il serait dommage de ne rien faire parce que j'éprouve telle ou telle gêne, telle ou telle difficulté. Quelque part, quand Jésus dit aux disciples « Ne l'empêchez pas », eh bien, quelque part, il ouvre la porte à la diversité. Je crois qu'il n'y avait pas de meilleure formation, qu'il n'y avait pas de meilleure façon de suivre Jésus que d'être avec les 12 ans. C'était le top et il s'est vraiment occupé de pour qu'ils soient équipés et formés comme eux. C'est pas possible mieux. Mais là, il y avait la place pour une autre façon de faire. Jésus l'accueille et invite ses disciples à l'accueillir. Et je crois qu'il nous invite également à le faire. celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Souvenons-nous de cette parole, alors que nous témoignons cette semaine, ensemble, auprès de nos voisins, de nos amis, de nos familles, de nos concitoyens. Souvenons-nous que, sur le terrain, c'est soit pour Jésus, soit contre. Il n'y a pas de zone neutre, c'est Jésus qui dit. Nous sommes soit pour Jésus, soit contre lui. Alors, si nous sommes pour lui, serrons-nous les coudes. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu vois nos difficultés à vivre entre nous l'amour et l'unité que tu as sauvé. C'est peut-être rassurant de se rendre compte que même à l'époque où tu étais sur terre, c'était déjà problématique. Et Seigneur, nous ne pouvons pas utiliser cela comme une excuse. Et nous voulons nous remettre devant l'exigence que tu as pour nous. L'exigence de témoigner de l'unité que tu nous donnes, même si elle n'est pas complète, d'en témoigner au maximum, de montrer qu'il y a une différence entre les différentes façons de ne pas être d'accord dans le monde et la façon de ne pas être d'accord dans ton Église. Et Seigneur, j'aimerais te prier que, en plus de toucher les vies cette semaine, tu nous changes pour être plus près de ton cœur dans le travail que nous pouvons avoir ensemble, dans le témoignage que nous pouvons avoir ensemble. Et je te prie que ce soit toi qui sois visible aux yeux de ceux qui nous ont créés. Nous te prions en Jésus.